Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de la rédaction de GameInfo.fr. Aujourd'hui, podcast numéro 210. Je ne suis pas Tyran, Tyran n'est pas là aujourd'hui. Nous avons choisi en fait de décaler le podcast pour que ATH et Ben, qui me rejoignent aujourd'hui, soient présents pour nous parler de Final Fantasy XV. Salut à tous les deux.
Salut.
Salut.
Et donc forcément, notre maître de cérémonie habituel n'est pas là pour le dernier podcast de l'année. On va faire une petite minute de silence pour lui. Désolé. Mais il faut quand même qu'on parle d'FF15. Au programme cette semaine, donc bien sûr FF15, mais aussi quelques news rapides. On va également dédier un segment à Super Mario Run et à la Nintendo Switch, puisqu'il y a eu quelques news qui sont apparues cette semaine. Et puis évidemment, le gros morceau de cette fin d'année, une des arlésiennes du jeu vidéo, est enfin sortie, Final Fantasy XV. Ben et ATH, qui l'a terminé, vont pouvoir nous dire ce qu'ils en ont pensé. Alors au niveau des news rapides, vous savez que Ben et moi sommes des fans d'Ark Survival Evolved. Beaucoup se demandaient quand est-ce qu'il allait sortir sur PlayStation 4. Et ben c'est désormais chose faite, avec un prix assez prohibitif, hein, puisque le jeu de base, qui rappelons-le, n'est toujours pas terminé, toujours pas optimisé, est à 35€, sachant que sur PC il est à 28€. Et si vous voulez également profiter du DLC qui va avec, qui s'appelle Scorched Earth, il va vous falloir débourser 50€. Voilà, ça c'est pour les joueurs PS4, amusez-vous bien. The Last of Us 2 qui chope au passage une nouvelle scénariste qui s'appelle la Halle Gross, qui a travaillé notamment sur la série Westworld, que je vous encourage à regarder si ce n'est pas encore fait. Elle a écrit 2 épisodes de la série de HBO, les épisodes 6 et 7, sachant que c'est une série qui est... en général, plutôt bien scénarisé, c'est une bonne nouvelle pour The Last of Us 2, qui avait quand même perdu son game director. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Naughty Dog, qui essaie de rapatrier les talents autour de cette suite.
Mais
ensuite, ATH, oui.
Pour The Last of Us, parce que dans le premier, c'était pas Amy Henning qui avait fait le scénario du jeu, c'était ouais. Neil Druckmann qui avait écrit le scénario, qui a aussi fait le scénario de Uncharted 4, en fait. The Last of Us était quand même un jeu qui avait mis un haut niveau en termes de narration. J'espère que Halle Gross va faire un travail quand même de qualité là-dessus, quoi.
Yes. Alors bah tu vas garder la parole justement pour nous parler rapidement de New Danganronpa 3. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu ? Une bonne nouvelle.
Ouais, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs PS4 et Vita, parce que c'est un jeu qui va sortir sur les consoles de Sony. Et c'est un jeu qui va être entièrement traduit en français. Enfin, je parle pas des doublages, mais je parle vraiment des sous-titres. Et je trouve ça quand même assez cool pour un jeu de niche comme ça, quoi. Parce que c'est un jeu ouais. qui, voilà, c'est un visuel novel. Donc c'est pas un jeu, on va dire, avec un gameplay très profond. C'est plus on suit une histoire. C'est très rare d'avoir des jeux comme ça qui sont traduits. Ça va motiver peut-être d'autres éditeurs comme ça à sortir des jeux de niche traduits chez nous, localisés. Ouais. Si le succès est au rendez-vous, voilà.
Bah, tant qu'à faire. Alors, dernier podcast de l'année, alors vu qu'on n'est pas sûr de revenir juste avant que ça se passe au mois de janvier, on voulait aussi vous parler des dates pour l'AGDQ 2017, donc Awesome Games Done Quick, qui est un marathon de stream et de speedrunner sur des jeux plutôt rétro en général. Voilà, on vous encourage à regarder ce qui se passe, que ça soit sur le stream original ou le restream français. Ça se passera du 8 janvier au 15 janvier 2017, donc profitez-en et puis n'hésitez pas à participer de façon pécuniaire, puisque c'est un marathon qui est fait pour la charité.
Ouais, donc, et enfin moi je trouve ça super intéressant le fait que ce soit le jeu vidéo qui permet de faire des dons à des associations. On a eu notamment par le passé Médecins Sans Frontières et aussi la lutte contre le cancer, enfin la prévention contre le cancer plutôt. Chaque année ils pètent les records, et en plus de ça, enfin parce que t'as dit il y avait beaucoup de jeux rétro, mais il y a quand même pas mal de jeux assez récents, et il y a des trucs totalement ouf comme le mec qui finit par exemple Zelda Ocarina of Time les yeux bandés. Enfin voilà, c'est n'hésitez pas à suivre ça, et si vous comprenez pas du tout l'anglais, vous avez jeuxvideo.com qui est partenaire de l'émission en général et qui assure bien le restream français à ce niveau-là, quoi.
Voilà, il y a moyen que si vous êtes amateur de jeux vidéo, ce qui a priori est le cas si vous nous écoutez, vous appréciez. On va passer du coup à Super Mario Run, qui a une, pour le coup, une très mauvaise nouvelle, une nouvelle assez incompréhensible, Ben. De quoi s'agit-il ?
Eh oui, donc Super Mario Run qui sort prochainement le 15 décembre sur iOS, et on a appris la nouvelle qu'il faudrait une connexion internet obligatoire pour pouvoir y jouer.
Mm-hmm.
ce qui est plutôt problématique pour un jeu mobile qui se joue notamment dans les transports en commun et ce genre de choses. Et tout le monde sait, enfin, bon, moi je suis pas parisien, mais je vous entends parler que la 4G ou même la 3G dans les transports en commun, c'est un petit peu compliqué, notamment dans le métro.
Ah bah, c'est quasi impossible.
Voilà. Donc ça prive quand même une bonne partie des gens d'accès au jeu. Parce que moi, je sais que voilà, moi où je suis, je prends pas les transports en commun parce que je suis un peu à la campagne, on va dire, même si c'est pas tout à fait ça. Ouais. Je joue peu sur mobile, mais quand j'y joue, c'est dans mon canapé au final, donc ça me gêne pas plus que ça. Mais c'est vrai que l'avantage des jeux mobiles, et je pense les gens chez qui ça marche, c'est les gens qui prennent beaucoup de transports en commun.
C'est carrément contre-productif en fait, parce que clairement, si Nintendo va vers le mobile, c'est justement pour toucher un public qui n'a plus trop le temps de jouer à des jeux vidéo, qui n'a plus forcément la volonté d'avoir une console portable dédiée. Donc bah là, dans ce cas-là, la 3DS. Du coup, c'est assez étrange de faire ça. Alors, je comprends effectivement que ça soit pour l'anti-piratage, ce que vous voulez. Ok, mais le fait de choisir ce support-là, il faut aussi en accepter l'écosystème. Parce que un jeu mobile, en tout cas pour les citadins, c'est un jeu que tu sors quand clairement tu te fais chier en général dans les transports en commun ou dans une salle d'attente ou dans un truc dans ce genre-là, ou quand t'as vraiment une mini pause dans ta journée, tu sors le truc, tu joues, t'es pas obligé de tout le temps avoir internet.
Ouais.
Et là, pour le coup, le fait de rendre cette connexion internet obligatoire, je me demande s'ils se tirent pas une balle dans le pied. Après, le truc, c'est que les gens à l'achat vont peut-être pas en avoir conscience de ça. Donc, est-ce que ça va vraiment les empêcher de marcher? Je ne sais pas.
Et surtout que le jeu est quand même vendu 10 euros.
Ouais.
Pour un jeu que tu ne possèdes pas, qui est juste en dématérialisé sur support mobile, ça fait quand même cher, surtout pour un runner, quoi. Et si tu veux, je comprends en fait la démarche d'avoir une connexion internet obligatoire pour certains jeux, par exemple comme tout ce qui est Clash Royale, etc. Parce que c'est des jeux qui jouent en multijoueur, donc la connexion internet, elle est légitime.
Indispensable,
quoi.
Ouais.
Et là, Mario Run, a priori, c'est un jeu où tu joues en solo quand même. Tu vas juste partager en fait les scores sur un leaderboard en fin de partie. On aurait très bien pu avoir un mode offline, quoi, et c'est un peu dommage.
Alors après, en fait, si vous voulez, le côté piratage, ça a été surtout évoqué par Shigeru Miyamoto, qui a accordé, en fait, des interviews, et qui a expliqué, en fait, pourquoi ça serait pas jouable hors ligne. Et ensuite, donc, évidemment, il y a eu un communiqué de Nintendo of America qui a expliqué un peu plus, en termes bullshit, pourquoi ça serait pas le cas. Et là, pour le coup, ils ont insisté sur le fait que c'est parce que le jeu avait beaucoup de composants pas vraiment multijoueur, mais dans un esprit global, notamment des modes de jeu hors solo. Certes, mais pourquoi ne pas avoir alors un mode solo qui serait jouable hors ligne? C'est ça qui, à mon sens, est débile. C'est que au final, Super Mario Run, tu peux très bien y jouer sans avoir dans la tête le scoring face aux autres joueurs, quoi. Donc c'est dommage.
Mais même, tu vois, pour un jeu par exemple comme Super Mario Maker, bah si tu voudrais faire des niveaux que t'as fait et que t'es dans le métro, bah j'aurais pas compris en fait que tu ne puisses pas y jouer sans connexion internet aussi. Encore si tu voudrais jouer à d'autres niveaux qui soient partagés par d'autres joueurs, c'est un peu le principe de Mario Maker. Oui, là si tu veux le mode online, il serait justifiable. Mais c'est vrai que pour Super Mario Run, c'est un petit peu handicapant, je trouve, pour ce jeu-là, quoi, qui est censé être l'ambassadeur de Nintendo. Surtout avec un prix aussi cher, parce que les gens sur smartphone, ils ont pas trop l'habitude de payer aussi cher, quoi, à part pour les jeux Square Enix, et encore, je sais pas s'ils vendent tellement sur ces supports-là. Donc, on verra bien, quoi.
On verra la semaine du 15 décembre. Donc on va enchaîner parce que c'est toujours du Nintendo, puisque Nintendo s'est un petit peu sorti les doigts justement à l'approche de la sortie de Super Mario Run. Ils ont fait une jolie présence plateau sur le premier talk show, late show pardon, américain qui est Jimmy Fallon sur NBC. Et ils en ont profité à la fin de la séquence pour dévoiler, hey au fait, ça c'est la Nintendo Switch. Attendez-la pour mars prochain. Il y a une petite démo de Zelda, donc ça dure 30 secondes, il n'y a pas grand-chose à en dire pour être honnête, mais ça nous permet de voir un petit peu plus la machine dans les mains de quelqu'un, et ça nous a permis de voir notamment qu'il y avait un port USB-C, en tout cas ce qui ressemble à être un port USB-C. Du coup, ça n'est pas un port de chargement propriétaire. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir brancher des câbles qui ne sont pas forcément faits par Nintendo. USB-C, c'est notamment utilisé pour des batteries externes. Donc ça serait potentiellement une très bonne nouvelle pour le jeu Nomade, puisque d'après les rumeurs, la Nintendo Switch tiendrait pas beaucoup la batterie. de par sa puissance. Donc si effectivement on peut brancher une batterie externe sur sa Switch, ça permettrait d'avoir des sessions de jeu en nomade un petit peu plus sur la longueur. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Ouais, mais ça, c'est déjà quand même un peu un aveu de faiblesse à ce niveau-là, quoi, avant même que la console soit sortie. C'est-à-dire que la console n'est pas encore sortie, qu'on parle déjà, voilà, que l'autonomie poserait un problème, et il faudrait peut-être que tu repasses à la caisse pour avoir justement une batterie externe, éventuellement. Et c'est un petit peu dommage de ce côté-là, quoi.
Oh, tu sais, quand tu penses qu'ils vendaient la 3DS sans chargeur...
Ouais.
Tu te dis que bon, c'est un moindre mal. Déjà là, tu peux acheter un truc qui est pas officiel Nintendo, a priori en tout cas, mm-hmm. pour pouvoir.
Surtout si t'en as déjà une en plus,
voilà,
a priori.
Pour pouvoir allonger ta durée de charge. Alors que voilà, sur la 3DS à la vente, t'avais même pas de chargeur, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont fait plus ou moins avoir en achetant la 3DS, en arrivant chez eux, ah ben je peux pas y jouer.
Ouais, mais ouais. J'espère vraiment que l'autonomie de la console quand même sera assez satisfaisante et que t'es pas obligé de jouer avec un adaptateur. Moi, ça me rappelle un peu la Game Gear, quoi. La Game Gear, c'était une super console, si tu veux. En termes esthétiques et de puissance, tout ça, ça allait exploser la Game Boy. Mais la Game Boy, avec 4 piles, tu pouvais y jouer super longtemps. Et la Game Gear, avec 6 piles, maximum, tu pouvais y jouer 3 heures à tout casser. Donc, moi, j'avais une consommation de la Game Gear qui n'était pas du tout une consommation, on va dire, nomade de la console. C'est parce que j'étais obligé d'y jouer sur un adaptateur secteur.
Ouais.
Et ça, je trouve que il faudrait au moins qu'elle puisse durer au moins 5 heures, quoi, minimum.
Ouais. Alors bon, on ne sait pas encore exactement vers quel taux d'autonomie se vouer. A priori, ça parle plutôt de 3 heures dans les rumeurs.
Que, ouais.
Donc bon, après 3 heures, est-ce que c'est vraiment choquant? La 3DS, quand elle est sortie, c'était 3 heures aussi. Hein.
Après, il faut voir s'ils mettent des petites options pour baisser soit la qualité, soit la luminosité, ce genre de choses, et pour gagner aussi un petit peu en batterie. Ça, j'imagine que oui, qu'ils l'ont prévu. Ouais.
Bah, ça serait logique, quoi. On va continuer à parler de rumeurs, justement, parce que c'est un petit peu la rumeur du moment autour de la Switch. C'est qu'a priori, au lancement, la Switch serait capable de vous proposer, dans la console virtuelle, des jeux GameCube. Ce qui est une nouveauté, puisque la console virtuelle à l'heure actuelle n'allait pas jusqu'à cette génération-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou au final c'est clairement un gimmick qui vous servira à rien?
Pour moi, c'est pas un truc qui est gadget, parce que si tu veux te refaire certains titres que t'avais aimés et que t'essaies de trouver des jeux GameCube, et bah ils commencent à coûter quand même pas mal cher en ce moment aussi, les jeux GameCube, et ils sont assez durs à trouver.
C'est vrai.
Ça m'intéresse. Il y a des jeux que j'ai pas pu faire à l'époque, j'aimerais bien faire maintenant. Mais après, c'est toujours le problème avec Nintendo. Pour moi, c'est le prix des jeux, quoi. Et j'espère que ça sera pas trop cher.
Faut voir combien ils vont vendre ça. Ouais.
Ouais, parce que quand tu vois sur la Wii U par exemple, qu'ils vendent des jeux NES ou Super Nintendo entre 5 et 10€. Ça fait un peu mal, quoi.
C'est vrai.
S'ils les vendent 30€, par exemple, là, ça, pour moi, ça serait hors de question. 10€, quoi, comme on a sur le PlayStation Store pour certains jeux de l'époque PlayStation 2, ça serait plutôt sympa.
Donc, voilà. Bon, on en a terminé pour la section news, qui était plutôt courte cette semaine à dessein, puisque nous avons beaucoup de choses à vous dire sur Final Fantasy XV, notre jeu du moment. Alors Final Fantasy XV, bien sûr, vous le savez, je vais pas vraiment vous faire le pitch du développement tourmenté. C'est effectivement une arlésienne du jeu vidéo qui est enfin sortie en 2016, a été annoncée il y a 10 ans. À l'époque, c'était Final Fantasy Versus 13. Ça y est, on a enfin pu mettre les mains dessus. Alors pas en ce qui me concerne, hein. Mes petits doigts tout gras n'ont pas pu y toucher puisque je n'ai pas de PS4. En revanche, Ben et ATH, eux, ont joué au jeu. Alors Ben a fait le début du jeu, ATH a tout terminé, il a tout poncé, il a fait l'endgame, enfin bref, voilà, on va avoir...
Il me reste encore des trucs endgame à finir, mais on va dire que je suis...
Tu l'as bien rushé,
voilà,
quand même.
Je l'ai bien rushé parce que la Street Date a sauté une semaine à l'avance quand même, c'est pour ça.
Ouais. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'évoquer le début du jeu qui a priori coche à peu près toutes les cases. Et pour commencer, bah, voilà, je voulais donner la parole à Ben, puisque pour le coup, toi, tu n'as fait que le début du jeu. Donc pour l'instant, tu es encore les yeux émerveillés, non, c'est ça?
Bah exactement, donc moi j'en suis à peu près à 7-8 heures de jeu.
Ouais.
Et c'est vrai que le début du jeu, c'est vraiment magnifique dans le sens où tu découvres vraiment un nouveau monde. Après, on va y revenir plus tard, mais c'est vraiment intéressant d'avoir vu Kingslave avant.
Ouais.
Pour le début du jeu, voilà, on y reviendra plus tard, mais je pense que c'est important. Mmh. Mais c'est vrai que le début du jeu, ça tient toutes les promesses. T'es dans une espèce d'open world, c'est vraiment joli, tu te balades assez librement, les combats sont assez intéressants. Enfin, c'est vraiment... Moi, le début du jeu, j'ai rien à y reprocher. Je pense qu'ATH est un peu du même avis que moi, en tout cas.
Ah oui, non, mais clairement, en fait, tout le début du jeu, voilà, j'étais super émerveillé par cette open world qui arrivait devant moi, surtout que c'est un grand nouveau pour la série Final Fantasy, même s'il y avait un petit peu Final Fantasy XII qui était dans ce truc-là, mais c'était pas à ce niveau-là, quoi. Là, tu vois vraiment que c'est joli, c'est immense. Enfin, quand t'arrives comme ça, tu te sens minuscule, en fait, dans ce décor.
Mmh.
T'as les étoiles plein les yeux, et ce que t'as envie de faire, c'est t'as envie de découvrir tout ce monde qui t'est proposé, et ouais... Si tu veux, même le début, pour moi, j'ai trouvé magique, et j'ai trouvé le jeu magique jusqu'à un certain niveau, mais ça a duré très très longtemps, quoi. Au début, j'étais là, je disais, ouais, mais si ça continue comme ça jusqu'à la fin du jeu, ça va être dingue, quoi.
Mais moi, par exemple, j'ai eu un peu la même impression, enfin, j'ai un peu fait comme dans un GTA, où des fois, t'arrives dans le jeu, et en fait, tu fais pas les missions.
Mmh.
Tu vois, tu vas te balader, tu testes des trucs, et en fait, le début pour moi de FF15, c'est un peu ça. Alors, tu fais quelques missions, mais moi j'aime beaucoup l'exploration, donc c'est vrai que je me balade un peu partout, j'essaie d'aller, de faire tout ce qui est débloquable, etc. Et c'est un peu, voilà, cet aspect-là que j'ai eu, en tout cas, moi, dans les premières heures de jeu, et encore, là, je suis à 7 heures de jeu, j'en suis toujours à découvrir, en fait, parce que au début du jeu, la map est plus ou moins bloquée, donc faut faire la mission principale pour débloquer des morceaux de map. En fait, j'y suis, pour te situer un peu à TH, un peu après la map où tu peux débloquer les chocobos.
Ah oui, donc ouais, c'est vrai que si tu te laisses emporter par tout ce qui te propose le jeu, bah tu vas prendre ton temps, ça va être très agréable en fait au début, ce sentiment de découverte et d'immensité. Et moi j'étais à fond dedans, quoi.
Ouais, bah moi je suis un peu, pour le début en tout cas, je suis totalement encore dans cette phase-là.
D'accord, bah alors du coup, le début ça a l'air très bien.
Oui.
Mais alors, est-ce que la promesse de l'open world elle est tenue de bout en bout?
Bah vas-y ATH, je pense que là c'est plus pour toi.
Je suppose que dans ta question, tu veux parler de tout ce qui est mur invisible, ce genre de choses-là, quoi.
Ouais.
Bah en fait, c'est vrai que t'es dans un open world, mais il y a quand même certains passages où tu ne peux pas aller, ou des fois, par exemple, des petits murets où tu ne peux pas sauter par-dessus parce qu'il y a un mur invisible qui bloque, quoi.
D'accord.
J'ai pas trouvé ces trucs-là vraiment trop dérangeants. T'as ce côté, en fait, où le jeu est immense, et c'est quand même assez impressionnant ce qui était proposé en termes de panorama, mais les problèmes c'est que tu vois l'open world, en fait t'as l'impression que dans Final Fantasy XV ça se résume à deux villes, et après toutes les autres villes en fait c'est des stations service par exemple. Et c'est vrai que si tu veux le prendre comme un GTA et essayer de faire du off-road etc, c'est pas un jeu qui est fait pour ça, quoi. Moi la voiture je l'ai plutôt utilisée comme des rails, donc ça m'a pas trop dérangé si tu veux que ça soit pas comme un open world qu'on aurait pu voir en monde ouvert par exemple. Et je trouve que c'est pas le même propos que dans un GTA en fait.
Ouais.
Oui, ça oui, non c'est sûr.
Donc du coup, j'imagine que les phases dans la bagnole, ça permet aussi de développer un petit peu tout ce qui est l'aspect... parce qu'en fait, dans le jeu, vous êtes au cœur d'un groupe de 4 jeunes hommes qui ressemblent un petit peu à un boys band de J-pop. Et a priori, ça a l'air d'être un aspect assez crucial, en fait, dans FF15. C'est le côté un peu, limite bromance.
Ouais.
Et j'imagine que ces phases dans la bagnole, ça permet aussi de développer ces moments-là.
Bah, en fait, ces phases dans la voiture, ce qui est vraiment pas mal, c'est que t'as certaines informations aussi, des fois, par exemple, que tu entends à la radio. Genre, ouais, des trucs qui se passent dans le scénario. Tu sais, dans GTA, des fois, ils disent, oui, par exemple, il y a eu un braquage à la banque, et tu sais très bien que c'était des actions du joueur. Là, c'est pas du tout comme ça, en fait. La radio, elle est utilisée que à certains moments du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un commentaire qui est fait, mais le commentaire, il est fait à un moment T, quoi. Et après, c'est-à-dire que la radio n'existe plus. Et si tu veux mettre de la musique, bah, c'est toi qui dois mettre tes propres musiques dans le lecteur MP3 qui est fourni dans le jeu. Et il faut acheter éventuellement aussi, par exemple, les BO des anciens Final Fantasy. Si tu veux écouter, par exemple, la musique de Final Fantasy VIII, Liberty Fatalis, bah, tu dois l'acheter dans une station service qui coûte une poignée de pain dans le jeu. Et après, tu peux te mettre la BO de tous les Final Fantasy. Et donc, ça, c'est un truc, pour moi, la bande son du jeu, c'est un gros point fort. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les phases où t'es en voiture, les personnages, en fait, entre eux, ils discutent.
Mmh.
Donc t'as, si tu veux, un peu l'impression que t'es le cinquième personnage du groupe, quoi. Et je trouve que même que cette narration-là, entre les 4 personnages, est encore plus réussie que la narration, en fait, globale du jeu, parce que c'est une relation qui se construit sur des moments de rien, en fait, des moments de vie de tous les jours. Je me rappelle très bien, au bout d'un moment, j'ai utilisé une grosse épée pour dégrasser un gros monstre, parce qu'il était vulnérable, justement, à cette arme-là. Et à ce moment-là, le personnage, il me dit, ouais, mais pourquoi t'as besoin d'une grosse épée, c'est pas fait pour toi. Et là, le personnage d'Anki, je lui dis, ouais, mais tu peux parler, t'en as une plus grosse que la mienne. Donc tu vois, si tu veux, il y a cet aspect où les personnages, si tu veux, se chambrent entre eux, et ils ont chacun leur personnalité. Donc au début, c'est vrai que je trouvais le groupe pas très cool, quoi. Enfin, il y avait certains personnages qui méritaient, notamment Prompto, qui est un peu le peureux du groupe, quoi. Mais si tu veux, au fur et à mesure du jeu, à force d'être avec eux, bah, j'ai commencé à les apprécier un petit peu plus. Et t'as aussi Ignis, par exemple, qui est un peu le personnage qui est en retrait, donc il parle pas beaucoup, mais quand il parle, tu sais que c'est vraiment un peu pour dire des choses qui sont utiles, qui est vraiment le stratège, quoi, et qui aussi sert à faire des trucs, par exemple, il fait la cuisine, et si tu veux, la cuisine, elle te donne des stats qui sont vraiment intéressantes à prendre en compte, parce qu'elle te donne des bonus assez intéressants selon le plat qu'il prépare. Et des fois, il va préparer des plats que un personnage préfère en particulier, donc il aura encore un bonus supplémentaire. Donc ça, c'est si tu veux, c'est des petites choses qui apportent un sentiment vraiment de cohérence vis-à-vis de ce groupe-là, quoi.
D'accord.
Juste pour revenir sur un petit truc, je suis totalement d'accord sur l'aspect romance qui est au final intéressant, alors qu'on pensait que ça allait être vraiment la partie un peu chiante. C'est intéressant parce que notamment voilà, dans l'exploration, comme je disais, que ce soit dans les combats, dans l'exploration, en fait ils sont toujours en train de parler entre eux les personnages, donc ça comble un peu. Par contre, moi le côté que j'ai trouvé dommage, c'est celui en voiture, parce que c'est vrai que les déplacements en voiture sont pas forcément très rapides.
Ouais.
Et moi, je sais que assez rapidement, en fait, tu peux faire des déplacements instantanés. Et si c'est une zone que j'ai déjà visitée, que j'ai déjà assez explorée, je vais le faire et du coup, je perds cet aspect-là. Voilà, c'est intéressant au début, mais je pense qu'assez rapidement, et en plus, quand t'as les chocobos en prêt, enfin, moi, j'explore beaucoup après à d'autres chocobos, donc c'est vrai que cet aspect voiture, il est un peu moins. Après, par contre, l'aspect génial de la voiture, c'est les musiques. Ça, c'est, on y reviendra plus tard, mais c'est le meilleur aspect pour moi.
Mais en fait, c'est intéressant parce que moi, les trajets en voiture, je les skip pas du tout parce que, en fait, j'ai débloqué une compétence qui me permet de...
Ah, de gagner des points de compétence en plus.
Voilà, des fois je dois aller d'un point A à un point B qui est assez long. Je mets le trajet en mode automatique et ce que je fais, c'est que je mets une musique de Final Fantasy que j'ai envie d'écouter. Je regarde un petit peu les paysages et tout ça. Et puis des fois même, bah je vais faire carrément autre chose le temps que ça arrive. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant dans la partie exploration du jeu, quoi.
Bah c'est vrai qu'au départ, t'as tellement envie d'explorer rapidement que tu te dis bon, je saute ce passage en voiture. Mais c'est vrai qu'après, s'il y a un intérêt un peu plus, voilà, que tu peux gagner entre guillemets de l'XP ou ce genre de choses, pourquoi pas.
Ouais, mais après c'est vrai que quand même quand tu fais le déplacement rapide. Entre guillemets, parce qu'il y a un temps de chargement qui est quand même assez long, je trouve. Des fois, si c'est un petit trajet vraiment assez court, je vais privilégier, si tu veux, le trajet court pour pas avoir justement le temps de chargement. Parce que je pense que des fois, ça peut être plus rentable d'avoir ce trajet en voiture le temps de chargement qui, il est quand même assez long. Et j'ai pas compris, il y a un chargement au début du jeu. Et après, si tu fais pas justement de déplacement rapide et tout ça, le chargement, en fait, il intervient que, par exemple, si tu as un game over. Et c'est vrai que pour moi, ce long temps de chargement, bah ça casse un petit peu le côté seamless de la chose, quoi.
C'est vrai.
D'accord. Alors bon, on va forcément parler du scénario de FF15, mais avant d'évoquer ça, il faut qu'on parle du plan transmédia autour de FF15, parce que vous savez qu'il y a eu un film qui s'appelle Kingslave et une série animée qui s'appelle Brotherhood. L'idée, en général, d'un plan transmédia, c'est d'avoir des œuvres qui suffisent à elles-mêmes, mais qui en plus apportent quelque chose à l'univers. L'exemple typique, c'est Star Wars, où vous allez avoir des comics qui vous permettent d'accéder à des histoires annexes, mais qui vous permettent voilà de développer un petit peu plus vos connaissances de l'univers, mais qui ne sont pas forcément nécessaires pour comprendre ce qui se déroule dans les films, notamment. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été réussi dans le plan transmédia de FF15, ou au final, c'est pas si bien que ça?
Moi, j'ai vu les deux, et je vais dire que Kingslave est très réussi en termes de film autosuffisant.
Ouais.
Mais par contre, FF15 a besoin de Kingslave. Voilà. D'accord. Ça, c'est clair et net. Le début du jeu est un peu pas bâclé. Je vais pas aller jusque là. Mais c'est vrai que moi, ayant vu le film, je comprends des choses. Je pense que sinon, t'as quelques doutes sur certains aspects. Tu sais pas exactement comment ça se passe. Et a priori, de ce que j'en ai entendu dire, plus tard dans le jeu, même, il y a d'autres moments où t'as des phases de trous si t'as pas vu Kingslave.
Ah oui.
Kingslave et Brotherhood, c'est des œuvres pour moi indispensables pour comprendre le scénario du jeu. Si tu regardes pas les œuvres transmédia, donc qui sont les films et la série, bah tu vas comprendre ce qui se passe, mais ça aura beaucoup moins d'impact déjà. Et surtout, en fait, c'est pas un Final Fantasy comme les anciens FF qui prend le temps d'installer son univers. C'est-à-dire là, tu lances le jeu et 2-3 minutes après, tu peux commencer déjà à jouer. Alors qu'avant, si tu veux, Final Fantasy, voilà, il installait son univers avec des longues cinématiques, il y avait des dialogues. Là, c'est assez fluide, quoi. Tu commences direct et tout. Mais si t'as pas vu ces œuvres, et bah tu comprends pas pourquoi le jeu commence comme ça. T'es obligé d'avoir vu ces œuvres-là pour comprendre la portée de Final Fantasy XV. Et j'ai l'impression que en jouant au jeu, qu'en fait limite Final Fantasy XV c'est un peu le produit dérivé de ces œuvres-là, quoi.
Ah oui.
En termes d'histoire, je parle, parce que le scénario ça pêche vraiment à ce niveau-là, quoi.
En fait, pour revenir sur la chronologie notamment donc de Kingslave et Brotherhood, pour Kingslave en fait ça se passe juste avant de démarrer FF15. Donc c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où si tu l'as vu, l'avantage c'est que tu démarres ton FF15 et t'es directement dans l'action. Mmh. Par contre, si tu l'as pas vu, bah, il te manque une part. Par contre, Brotherhood, on retrouve l'aspect bromance. En fait, c'est Noctis qui raconte sa rencontre avec chacun des autres personnages et ce lien d'amitié qui se crée. Voilà.
J'ai vraiment l'impression en fait que Final Fantasy XV me présentait des personnages qui avaient l'air super cool sur papier. Et que si, déjà, je n'ai pas vu King's Life, je ne sais pas qui ils sont. Eux-mêmes ont dit que le jeu pêchait à ce niveau-là, notamment parce qu'ils promettent des mises à jour pour rajouter justement ouais. des cinématiques, pour justement expliquer un petit peu la chose. Mais en plus de ça, c'est des personnages que tu rencontres comme ça, et puis après, ils disparaissent de l'aventure, mais pas pour des raisons scénaristiques. C'est juste, ils disparaissent du jeu, et puis tu ne les revois plus, en fait. T'as l'impression qu'ils sont éclipsés comme ça, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y avait des personnages qui étaient vachement intéressants. L'Empire, qui sont un peu les gros méchants du film King's Eleven, et bah là, t'as l'impression qu'en fait, dans l'univers de Final Fantasy XV, bah, le monde n'est pas en guerre, en fait. T'as l'impression d'être en vacances, en fait. Quand t'es dans l'open world, les gens, ils n'ont pas l'air d'être préoccupés que ça par l'Empire. Enfin, des fois, si, ils ont les PNJs ont des petits dialogues, mais ils font leur vie tranquille, tu sens pas cette ambiance un peu oppressante. Et le problème, c'est que quand t'es dans la partie open world, le jeu est vachement brillant. Et au bout d'un moment, à partir du chapitre 9, en fait, tu commences à rentrer dans la partie linéaire du titre jusqu'à la fin du jeu. Tout a été rushé, tout a été balancé comme ça dans la gueule. T'as pas l'impression de digérer certaines informations. Il y a des trucs vachement gâchés, quoi. Et je pense qu'ils auraient pu faire un truc vraiment incroyable parce que l'histoire qui est vraiment racontée, elle est intéressante, je trouve. Mais ça a été bâclé. Tu vois là où est-ce qu'il y a eu les coupes. C'est ça qui est dommage, c'est que tu vois là vraiment où il y a eu les coupes dans le scénario. Notamment le chapitre 13 qui a été très très critiqué, et à juste titre, parce que c'est le chapitre de l'horreur, c'est le chapitre le plus long du jeu. Quand vous serez à ce chapitre là, vous serez vraiment ce que représente la notion de couloir et le gameplay qui n'est pas du tout adapté à un RPG comme Final Fantasy. En fait, c'est un gameplay qui va se centrer vraiment sur le côté infiltration et un peu survival en faisant ça, mais comme a pu le faire Metal Gear Solid 1 et Resident Evil, mais les premiers sur PlayStation 1. Sauf que, à l'époque, bah, pour ces jeux-là, ça allait parce que c'était des jeux qui avaient un gameplay adapté. Mais pour Final Fantasy, t'as l'impression qu'ils ont pris vraiment que les mauvais côtés de ces jeux-là. Des fois, t'as des éléments de scénario qui sont super importants, mais que tu trouves comme ça dans ce chapitre 13, sous forme de lettres ou d'écrits. Tu en trouves plusieurs, mais à chaque fois, c'est sous forme de post-it, en fait. C'est pas des trucs super bien mis en avant, alors que c'est des trucs qui te racontent quand même des choses assez intéressantes. Et du coup, t'as l'impression que le jeu, ils ont mis des petits post-it comme ça pour te dire ce qui s'est passé pendant le jeu. Et tu te dis, ah ouais, quand même, là, c'est assez grave, quoi.
Ouais, donc en fait, tu te démerdes complètement par rapport au scénario. Si tu trouves, tant mieux. Si tu trouves pas, bah, si, tant pis,
t'as
en
des
fait,
trous
tu
dans
sauras
le scénario,
pas.
Ouais.
Ouais, mais enfin, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, je suis quand même quelqu'un d'assez averti sur le scénario du jeu. J'étais déjà un petit peu au courant du travail de Nomura et tout ça. J'ai plus à accorder, si tu veux, les trous de scénario. Je sais très bien ce qui manque ou ce qui manque pas dans le jeu.
Ouais.
Donc, si tu veux, j'ai pu comprendre la globalité du scénario, mais j'ai trouvé que, en termes de rendu, de mise en scène, bah, c'était vachement beau, en fait, dans le jeu. Voilà, c'était des trucs qu'il ne fallait pas faire. Et malheureusement, ça a été fait d'une manière bâtarde, quoi, dans Final Fantasy XV.
D'accord. On en arrête avec le scénario, on parle peut-être du système de combat, parce que c'est quand même quelque chose de très important pour un Final Fantasy. Où est-ce qu'on en est avec Final Fantasy XV dans le système de combat? Qu'est-ce que ça donne? C'est toujours du tour par tour
Bah justement, non. Comme tu l'avais dit au début, le jeu a été moult fois réinitialisé, refait, changé, etc. Donc là, on arrive à un système de combat qui n'est plus du tout au tour par tour, qui est du temps réel, où les rencontres se font sur la map en se baladant. On dirige un seul personnage. Malgré qu'il y ait quelques interactions avec les autres, on peut faire des combos suivant le type d'attaque qu'on fait, ça a déclenché certains combos, etc. Mais voilà, ce n'est plus du tour par tour, ce n'est plus les Final Fantasy qu'on a pu connaître avant. Donc.
Ça ressemble un petit peu à Kingdom Hearts ou pas?
Voilà, c'est plus du Kingdom Hearts, à plus réaliste, parce que bon, dans Kingdom Hearts, il y a des combos où le personnage vole à 50 mètres de hauteur, etc. Donc là, ça reste un peu plus réaliste.
Réaliste entre guillemets, quoi. Noctis, quand même, il balance son arme sur un rocher
oui,
et il se téléporte.
Oui, oui, ça reste...
Ouais, ça reste quand même...
Voilà, donc le héros qu'on dirige, qui est Noctis, a 4 emplacements où il peut mettre soit des armes, soit de la magie. Donc un type d'arme, on peut avoir une épée normale, une grosse épée, des dagues, une lance, peut-être un pistolet aussi.
Oui,
je crois
que
c'est à peu près...
Noctis, il peut s'équiper de toutes les armes que ses compagnons ont. Et il n'y a que lui qui peut utiliser les épées en fait à une main.
Donc voilà, suivant les types d'ennemis ou les combos qu'on veut faire, donc on peut utiliser des attaques différentes et des armes différentes. Donc il y a le point qu'a cité ATH où Noctis a ce pouvoir de pouvoir en fait s'agripper un peu dans l'univers à des endroits en hauteur. Donc en fait, il va lancer son épée, elle va apparaître au bout, il va être accroché en hauteur. Et à ce moment-là, en fait, il domine un peu la scène de combat et il peut choisir un ennemi et l'attaquer depuis cette zone-là, quoi.
Et ça, c'est vraiment la meilleure idée du système de combat pour moi, c'est que T'as une sensation de fluidité dans les mouvements de Noctis quand il fait ça. Ça te permet en fait d'avoir un petit peu un côté stratégique et de t'équiper en conséquence par exemple d'une arme qui va faire plus de dégâts à cet ennemi-là. Et du coup, tu arrives comme ça par les airs et tu pouffes les cieux carrément et tu fais des dégâts vachement puissants selon la distance. J'ai kiffé le système de combat Eclipse, quoi.
En plus, il y a une espèce de système de ferrier avec des points de compétence où tu peux débloquer un arbre où au fur et à mesure tu débloques des aptitudes. Quand t'es dans cette position-là, en fait, en l'air, tu peux récupérer plus de PV ou des points de magie, etc. Quand t'es en danger, bah, tu vas aller un peu te réfugier en haut, tu vas prendre de la hauteur, tu vas regarder ce qui se passe, tu vas dire, tiens, il vaut mieux attaquer cet ennemi. Donc voilà, ça ajoute cet effet un peu stratégique et récupération pour le personnage principal, en tout cas.
Ouais, mais pour moi, le système de combat de ce Final Fantasy XV est vraiment très bon. C'est un système de combat vachement fluide. Ça part dans tous les sens et en plus de ça, voilà, Square Enix, ils ont fait quand même un énorme travail dessus parce que il doit gérer l'IA de tes compagnons plus les créatures. Quand tu vois déjà toutes les étapes d'animation qui ont été mises en place, il y a quand même un gros travail qui a été fait là-dessus. Mais le gros problème pour moi du système de combat, en fait, c'est la magie. Dans l'univers, il y a que Noctis qui peut utiliser la magie, et pour que ses compagnons puissent utiliser la magie, il peut créer des espèces de grenades magiques qui peuvent balancer, ou bien que Noctis aussi peut balancer. Mais donc, tu dois crafter un petit peu la magie. Si tu veux, le système de craft et tout ça, ça peut être super intéressant. Mais je l'ai pas trop développé parce que j'ai commencé à utiliser la magie au début. Mais le problème, c'est que, en fait, quand tu balances un sort, il y a du friendly fighter. Et ça, c'est quand même assez con parce que des fois, c'est des sorts qui touchent toute la zone, en fait. Et même toi, en fait, tu vas subir des dégâts. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'utiliser le système de magie. Pourtant, la magie, elle a l'air quand même assez craquée. Mais, ça me donne pas du tout envie d'utiliser parce que si tu balances ça dans un combat, tu vas perdre des PV, quoi.
C'est complètement débile.
Voilà. Alors que, enfin, s'ils auraient voulu mettre du friendly fire à toutes les sauces, pourquoi pas mettre des friendly fire aussi quand tu balances des coups d'épée et tout ça? Donc, ça aurait été un bordel pas possible à gérer. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont laissé ça. Si tu veux mettre un truc qui est méga puissant, parce que vraiment quand tu utilises la magie, t'as des effets visuels de ouf, quoi. T'as vraiment le terrain qui change et tout ça, donc...
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est dommage parce que, en tout cas, moi, au début, j'ai moins de problèmes parce que mes sorts sont pas très puissants, donc la zone qui couvre est pas très importante. Mais par contre, c'est vraiment impressionnant parce que, par exemple, tu vas lancer un sort d'éclair, s'il y a un personnage qui est là, il va être comme brûlé. Donc tu vas voir sur lui qu'il a la peau plus mate. Enfin, c'est ultra travaillé, la magie, pour le coup.
Mais là, on est tous cramés à la fin du combat. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser le système de magie, alors que je pense qu'il y avait des trucs vraiment sympas à faire.
Ouais, c'est dommage, ouais.
Et je voulais aussi revenir sur les invocations, en fait.
Ah, ça, j'ai pas encore.
Ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas le contrôle sur les invocations, comme dans les anciens FF. Elles apparaissent quand t'as veut, en fait. Pour chaque type d'invocation, on va dire qu'il y a un truc qui va faire que va se déclencher ou pas. Mais c'est pas sûr que ça va se déclencher, en fait. Donc, du coup, tu sais jamais quand une invocation va arriver.
T'as une partie d'aléatoire, quand même, dans ça, ouais.
C'est chelou, ça.
Bah après, elles sont ultra pétées, non, les invocations?
Ouais, les invocations, c'est-à-dire quand tu fais
Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont limité ce truc-là, parce que a priori, c'est assez pété comme truc, ouais.
Du coup, après, si tu veux, tu pouvais faire des invocations moins pétées, quoi. C'est dans le...
Oui, oui, bien sûr, ouais.
L'invocation que je pense qu'on a tous vu, pour pas trop spoiler, c'est l'invocation de Ramu, donc, c'est
oui, un... qui était dans les démos avant,
Quand tu arrives à avoir l'invocation, bah, entre guillemets, ça va mettre fin au game, quoi. Le combat est terminé. Parce qu'il va tout défoncer. Et là, t'as des effets vachement impressionnants. Par exemple, Ramu qui fait un sort de foudre sur toute la zone. Et bah, ça va cramer la zone, tu vois, après le combat. Donc tu vas voir que la zone est un peu brûlée, tout ça. Bon, c'est un effet qui va durer pendant peut-être 30 secondes. Mais je veux dire, l'effet est vachement impressionnant. Et puis, tu vois qu'il est vraiment géant, quoi. T'es minuscule à ses pieds. Et il y a aussi certaines invocations, enfin, certains endroits où tu es dans des invocations. J'ai trouvé ça vachement bien fait de la part de Square Enix, par contre. Par exemple, quand t'es dans l'open world, et bah, Ramu, il va sortir sa lance, il va la planter au sol, et ça va faire un sort de foudre. Mais du coup, tu te dis, ça va pas être cohérent quand il est dans un donjon souterrain. Il va pas venir dans le donjon, surtout que le mec est vachement immense. Et planter sa foudre dans le donjon, en fait. Et ce qui se passe, donc, il apparaît comme ça au-dessus des cieux. Il balance sa foudre qui va traverser, en fait, les murs du donjon, et il y a juste sa lance qui va arriver. Donc, tu vois qu'il y a des détails qui ont été faits sur l'endroit où tu t'y situes pour que les invocations soient pas...
Ça reste cohérent.
Voilà. Ouais. C'est parce que tu vois, dans les égouts, je te dis, le mec, il fait la taille d'une montagne. Il va pas apparaître comme ça au milieu des égouts. C'est vachement bien fait, quoi.
Ok. Alors moi j'ai une question du tyran qui, même s'il n'est pas là, nous a laissé une petite question, notamment sur le système de combat, qui nous dit « J'ai entendu dire que c'était bordélique à suivre par moment, est-ce que vous êtes d'accord ?» Le côté action du système de combat, est-ce que justement ça va pas trop vite? Est-ce que vous avez le temps de tout gérer ou est-ce qu'au final il y a des moments où vous en prenez plein la gueule parce qu'en fait vous arrivez pas à gérer tout ce que vous voulez faire contre les monstres?
Ben?
Alors j'ai pas trop eu le problème, c'est vrai que des fois... tu peux avoir plusieurs en fait packs d'ennemis qui vont t'attaquer. C'est en fait, en gros, tu rentres dans des zones où tu peux être susceptible d'être attaqué. Et des fois, il y a des vaisseaux qui arrivent et qui lâchent des soldats. Et des fois, c'est vrai que ces deux-là, ça se regroupe et ça fait une zone où tu te bats où il y a peut-être 20 ennemis. Donc des fois, la caméra, il faut un peu la régler parce qu'elle a un peu du mal à te situer. Mais l'avantage qu'avait ton personnage, c'est que si tu appuies sur triangle, en fait, il va pouvoir lancer son épée et aller un peu plus loin. Donc t'as toujours moyen de prendre un peu de recul, même si c'est pas en l'air, c'est de s'éloigner du groupe pour regarder un peu ce qui se passe, etc. Donc des fois c'est vrai qu'il y a un peu de monde dans les combats, mais pour l'instant j'ai pas trouvé que c'était trop bordélique. Enfin, je m'en suis toujours sorti pour l'instant, en tout cas.
D'accord.
En fait, l'aspect bordélique, ouais, c'est vrai que certains moments, ouais, ça va arriver.
Il y a du monde.
Ouais, enfin, il y a du monde, mais en fait, le problème, c'est que des fois, surtout quand tu vas faire des donjons dans des lieux très fermés, des fois la caméra va se placer à un endroit, genre derrière un rocher.
Ouais.
Le rocher va rester là et tu vas pas voir ce qui se passe.
Va bloquer ta vision. Ouais.
Voilà. Donc,
d'accord.
Du coup, si tu veux, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas appuyer sur la touche action pour balancer plein d'attaques.
Mais sans trop savoir ce que tu fais. Ouais.
Et ce que tu disais, l'aspect bordélique, moi j'aime bien le fait que, en fait, on va dire, tu es dans une plaine, tu affrontes un groupe de rhinocéros. Il y a peut-être des loups qui vont venir s'ajouter à la mêlée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pas venir t'attaquer toi directement, le joueur, ou bien ton groupe. Ils vont aussi s'attaquer entre eux. Après, quand ils vont venir sur toi, donc il y aura vraiment pas mal de monde. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des vaisseaux impériaux qui vont arriver par-dessus. Ils vont venir s'ajouter aussi par-dessus le combat. Du coup, ça va être un bordel pas possible. Il y aura plein d'ennemis, mais chacun a une interaction entre eux. Et vraiment, le point, mais le petit détail que tu vois que Square Enix, ils sont pas foutus de notre gueule, c'est tout ce qui est monstre, en fait. Les monstres, ils sont tous différents les uns des autres. C'est-à-dire que, il y aura certains rhinocéros, par exemple, qui aura une corne en moins. L'autre qui aura des griffures que l'autre n'a pas.
T'as des différences de taille aussi.
Ouais,
et
voilà.
Du coup, de level.
Des tailles, de level, d'aspect physique. Enfin, c'est vraiment le petit détail, quoi, qui tue.
Ouais, le détail qui tue.
Voilà.
Ok.
Et juste un dernier truc très rapide à ce niveau-là, c'est que il y a le système jour-nuit, et donc la nuit en plus, c'est d'autres types d'ennemis que tu rencontres qui sont pour le coup beaucoup plus forts, mais tu peux tomber sur des ennemis assez impressionnants dès le début du jeu.
Ouais.
Et voilà, comme le disait ATH, tu vois qu'il y a eu du travail, vraiment, ils ont bossé.
Ok. Alors du coup, vous parliez tout à l'heure du fait que parfois en combat, il y a pas mal de monstres qui apparaissent à l'écran. Ça me permet de sauter sur un autre aspect du jeu qu'il faut évoquer, c'est l'aspect technique. Je sais que vous avez joué sur deux consoles différentes, puisque Ben y a joué sur la PS4 normale et ATH y a joué sur la PS4 Pro. Donc je voulais commencer par donner la parole à Ben pour savoir si justement une personne qui a une PS4 basique, même pas une PS4 Slim, est-ce que ça passe, c'est gérable, ou est-ce qu'il y a du lag, est-ce qu'il y a des problèmes techniques?
Eh ben pour l'instant, moi, j'ai pas eu de problème de lag, en tout cas. Alors, j'ai le jeu qui a planté une fois.
D'accord.
Comme il y a eu à la démo à la Paris Games Week, là où le jeu avait planté, ça m'est arrivé une fois. Par contre, après, j'ai pas eu de vrais problèmes de lag, ce genre de choses, à part les temps de chargement qui sont ultra longs, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. Mais en termes de jeu et de combat, j'ai pas eu de lag. Alors, j'ai pas encore été dans des zones assez refermées, des donjons, où peut-être là, vu que c'est plus restreint, s'il y a plus de mobs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, dans l'open world, moi, j'ai pas eu de problème.
Mais est-ce que, Ben, tu as eu des... Parce que tu sais que tu as deux modes de jeu, tu as le mode fluide et tu as le mode finesse.
C'est pas que sur la PS4 Pro ça que tu peux le faire, justement?
Non, même sur la PS4
non.
classique, en fait, tu vas...
J'ai pas essayé, j'ai laissé par défaut, alors je sais pas lequel...
Parce que, bah...
J'imagine que par défaut, ils mettent le plus fluide, non?
Non, par défaut, justement, c'est le mode finesse, en fait. C'est-à-dire que le jeu est capé à 30 images par seconde, t'as moins d'aliasing et ce genre de choses-là, quoi, t'as moins de popping et tout. Quand tu enlèves le mode finesse, en fait, tu vois les... un peu plus tout ce qui est scintillement, tout ça. Mais si tu mets par exemple le mode fluide, et bah, tu peux monter jusqu'à 50 FPS, quoi, on va dire. Faut savoir aussi qu'il y a un patch PS4 Pro aussi qui doit sortir normalement, parce que là, le jeu n'est pas encore optimisé pour la PS4 Pro, et moi j'attends le patch pour voir ce que ça va donner. Faut savoir que le jeu, techniquement, il s'en sort plutôt pas mal. Mais tu sens vraiment que le développement a été bon, parce que quand tu regardes le jeu comme ça de très loin, le jeu est magnifique et tout. Mais quand tu regardes les détails, par exemple, de certaines textures, c'est assez bizarre parce qu'il y a des textures qui font très PS4 et il y a des textures qui font vieille génération, tout ça. Et ce qui est bizarre, c'est que tu vois que l'aspect technique de certaines choses, en fait, des petits détails, par exemple, même les cheveux de Noctis, contrairement à Final Fantasy XIII, bah, tu vois pas mal tout ce qui est aliasing, justement. Alors que c'était un truc, tu vois, Final Fantasy, pour eux, tout ce qui est coupe de cheveux, c'est une religion. Et dans Final Fantasy XIII, il n'y avait pas ce souci-là, alors que là, tu vois, les cheveux sont un peu moins beaux, et même tout ce qui est barbe et tout ça, ça fait un peu dégueulasse, quoi.
D'accord. Est-ce qu'on a fini avec l'aspect technique et on parle de la bande-son un peu?
Ouais.
Allez.
Ouais. Alors la bande-son, moi, ce qui m'intéresse, donc bien sûr, c'est les effets sonores, mais c'est aussi la musique, vous l'avez un petit peu déjà évoqué. Les musiques des Final Fantasy, en général, c'est toujours quelque chose de très référentiel. On les transporte un petit peu avec nous partout où on va, si vous voulez. Est-ce que celle de FF15, ça va être aussi des musiques emblématiques dont on va pouvoir se souvenir dans quelques années?
Bah en fait, les musiques de Final Fantasy XV, on les connaissait déjà parce que c'est les mêmes que Final Fantasy Versus XIII. Donc du coup, si tu veux, je connaissais déjà beaucoup la bande son du jeu sans y avoir joué et elle m'avait déjà marqué sans avoir même joué au jeu. Et pour dire mon point de vue sur la bande son de Final Fantasy XV en termes musical, pour moi, c'est la meilleure OST de tout Final Fantasy. Dans la voiture, t'as déjà toutes les OST des anciens FF. Enfin, pas tous les morceaux, mais t'as pas mal de morceaux quand même des anciens FF. Et les musiques qui ont été faites donc par Shiki Umura, c'est un travail quand même assez ouf, quoi. Elle a quand même accompli un travail de ouf pour sa première composition musicale sur un Final Fantasy, quoi. Et on peut que lui rendre hommage. C'est un style très différent de Uematsu, mais ça colle vachement bien au jeu. Et je pense que les musiques de Final Fantasy XV, par contre, ça, les joueurs vont s'en souvenir pendant longtemps.
D'accord. Cool. Alors bien sûr, on parle d'un RPG, et notamment d'un JRPG, donc il y a un aspect qui est forcément très important pour les joueurs.
Juste pour sur la bande son, peut-être que on pourrait peut-être dire juste deux trois mots sur le doublage.
Ah oui, oui, effectivement, c'est important. Ben, notamment la VF.
Tu as joué en quelle langue ?
J'ai essayé plusieurs langues, tu vois. J'ai essayé la version japonaise, la version anglaise, la version française. J'ai essayé les trois pour voir un peu. Donc voilà.
Et du coup, alors, t'en penses quoi de la version française ?
Qu'elles sont toutes très bien, au final. J'ai trouvé.
Moi, en fait, j'ai fait le jeu entièrement en VF. Si vous avez vu le film Kingsglaive en français, et bah, c'est du même niveau, en fait. T'as une qualité, mais vraiment de ouf, quoi. Les doubleurs qui ont été choisis, bah, c'est des doubleurs que tu as entendus dans beaucoup de séries télévisées, dans des films. Enfin, c'est des acteurs quand même assez connus qui ont prêté leur voix pour ce Final Fantasy. Après, des fois, il y a certaines intonations qui, en VF, passent pas trop. Mais parce que tu vois, c'est des trucs qui sont typiquement japonais. Mais si tu veux, c'est très rare quoi que tu peux reprocher quelque chose sur la VF. J'ai rien à dire quoi. J'ai vraiment apprécié le fait que on ait vraiment une VF, mais vraiment très bien travaillée de ce côté-là quoi.
Ok. Du coup, je peux passer à la durée de vie ?
Ouais, ouais.
Vas-y.
Alors du coup, durée de vie, bon, très important hein, pour un JRPG. Est-ce que on est servi de ce côté-là ou c'est un peu en deçà des attentes ?
Bah alors la durée de vie c'est important, mais ce qui est plus important encore pour moi c'est ce que tu vas y faire pendant cette durée de vie.
Bien sûr.
Et là en fait Final Fantasy XV, il a les pires quêtes annexes de l'histoire du jeu vidéo pour moi. Des quêtes où tu dois aller chercher des grenouilles, où c'est même pas mis en scène, enfin je veux dire les quêtes qui sont totalement d'un autre temps en fait. C'est du FedEx mais du très mauvais FedEx quoi. Il y a des donjons qui peuvent découler de ces quêtes là, des trucs qui sont totalement optionnels, ce qui est le endgame en fait. Là, on peut commencer à parler de choses sérieuses. Et là, oui, ça va devenir intéressant parce que tu vas avoir des donjons secrets, des boss secrets, des trucs qui sont complètement hors level, des trucs complètement ouf. Là, tu vas dire, oui, c'est vachement intéressant. Et du coup, t'es obligé de te taper pas mal de quêtes qui sont vraiment inutiles pour avoir des trucs intéressants. Genre, au bout d'un moment, tu vas arriver, il y a un mec, un commerçant qui va te dire, ouais, mon camion de flageolet a été attaqué, est-ce que tu peux aller voir la cargaison ? Donc du coup, tu te rends sur la map. Et tu vas chercher les cargaisons, et après tu vas revenir voir le commerçant, et si tu veux, bah, c'est pas du tout travaillé, quoi. Par exemple, si tu prends les talons du genre en termes de quêtes secondaires, un The Witcher 3, mais on est à des années-lumière de ça. Et pour moi, c'est problématique, en fait.
Ouais.
Et même aussi, tu vois, le système de chasse, parce que dans les Final Fantasy, un peu comme dans Final Fantasy XII, t'as un système de chasse aux monstres, mais le système de chasse aux monstres, en fait, tu peux pas prendre plusieurs quêtes de chasse à la fois. C'est-à-dire que t'es obligé d'en prendre une, tu vas tuer le monstre, t'es obligé de revenir. Quand tu le fais une fois ou deux, ça va. Mais quand tu dois le faire 100 fois dans le jeu, parce qu'il y a plein de quêtes annexes comme ça à la con, normalement ça commence à devenir répétitif et c'est saoulant. Donc ça, si tu veux, de ce point de vue-là, c'est pas très intéressant. Mais pour revenir à la durée de vie, en termes de scénario, je pense que c'est le plus court des FF si tu veux le faire en ligne droite. Je pense qu'en 20 heures, si tu veux le faire en ligne droite, tu vas tracer et tu peux le finir. Surtout que le jeu est assez simple, et donc t'as pas besoin de leveler à mort pour être au niveau. Et la durée de vie, donc, elle est assez courte. Mais par exemple Ben a dit qu'il était à 7 heures de jeu, il en est encore au début du jeu quasiment.
Oui, je dois être au chapitre 4 ou 5 juste, donc je suis pas très loin. Hein.
Et du coup, quand j'ai fini le jeu, j'avais 70 heures de jeu, parce que j'ai fait beaucoup de tout ce qui était annexe et tout ça, et j'explorais au fur et à mesure, et à chaque fois je voulais pas avancer dans le scénario. Donc la durée de vie elle peut être très courte, comme elle peut être très longue en fait, ça dépend le type de joueur que tu es quoi. Et justement, moi je voulais revenir sur le endgame en fait.
Ouais.
Ce Final Fantasy XV, il me fait vachement penser à un MMO. Tu sais, un MMO, tu fais la campagne et tout ça, et puis après, t'as toujours tout ce qui est endgame qui arrive à la fin du jeu, et qui repousse un peu le jeu dans ses limites. Et bah là, Final Fantasy XV, il y a plein de donjons secrets, il y a plein de boss qui sont méga balèzes, le jeu ne t'incite pas à y aller par toi-même, en fait. Et ça, j'ai trouvé vachement cool, quoi. Là, j'ai eu de la difficulté, j'ai eu des combats de boss vraiment mémorables, parce qu'il faut savoir que les boss dans la campagne principale, ils sont vraiment assez nazes, quoi. J'étais très déçu par les boss parce que qui dit Final Fantasy, bah dit combat de boss épique et tout ça. Et ouais, t'as le côté épique par la mise en scène, mais le côté challenge n'est pas là. Et ça fait vraiment penser à du Dragon Ball Z où tu appuies sur des boutons comme ça, mais limite tu peux jouer sans te prendre la tête, quoi. Et j'étais très déçu de ce côté-là. Donc les endgame qui rapportent des boss vraiment puissants, gigantesques, tout ce qui était promis, et sans les QTE à la con qui viennent te faciliter la tâche, et bah là j'ai dit ouais, franchement là il m'a commencé à me réconcilier parce que
ouais, tu m'as dit que tu voulais même plus y toucher en fait une fois que t'avais terminé la quête principale.
Ouais, parce que je me suis basé sur Kingslave, notamment tout ce qui concerne narration et scénario. Oui. Et du coup, bah, quand je suis arrivé à la fin du jeu, j'ai dit, ouais, mais, enfin, pour moi, Final Fantasy, tout ce qui est JRPG, ce qui prime avant le gameplay, c'est le scénario d'un jeu, c'est le fait que tu puisses vivre l'aventure. Et de ce côté-là, j'étais vachement déçu. Le endgame, voilà, c'est, pour moi, ça rattrape un petit peu ce côté, un peu de difficulté du jeu, challenge, et aussi, tout ce qui est combat épique, et vraiment, enfin, et ça me fait penser bah justement à Final Fantasy XIV qui a eu lui aussi a droit à son patch qui enfin le jeu a été retravaillé entièrement parce que à la sortie de Final Fantasy XIV c'était un gros échec et du coup ils ont commencé à retravailler sur le jeu, ils ont fait donc Final Fantasy XIV A Realm Reborn et j'ai l'impression qu'avec Final Fantasy XV en ce qui concerne notamment le scénario, ils vont essayer de refaire un petit peu ça quoi.
OK, il me semble que le jeu commence avec une phrase assez intéressante qui évoque en fait le fait que bah, c'est un jeu qui a été fait à la fois pour les anciens fans, mais aussi pour les nouveaux venus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou au final bah, c'est plus pour les uns que pour les autres ?
Moi je dirais que c'est plus pour les nouveaux venus, bien qu'il y ait certains aspects quand même pour les fans, comme la musique des anciens FF que tu peux avoir dans la voiture, comme tout l'univers avec les chocobos, quand même ce genre de choses qui est ultra Final Fantasy, mais je pense que dans les systèmes et dans la narration et tout ce genre de choses, c'est plus quand même pour de nouveaux joueurs.
D'accord.
Je suis d'accord avec toi Ben. Après tu vois, enfin, ce qui fait Final Fantasy, c'est tout ce qui est invocation, nom de certains personnages qui reviennent, des trucs récurrents de la série. Tout ce qui est système de combat est remanié. Par exemple, Final Fantasy VII, c'était basé sur les matérias, alors que Final Fantasy VIII, c'était basé vachement sur les G-Force, et il fallait optimiser de ce point de vue-là avec les magies, tout ça. Enfin, à chaque fois, c'est un système différent. Final Fantasy X avait les sphériés. Des Final Fantasy, par exemple, comme les 4, 5, 6, où c'était des systèmes de job, où tu pouvais complètement changer ton personnage, ça pouvait être un mage. Et après tu disais ouais mais je veux pas que ce personnage soit un mage, je veux que ça soit un ninja, et du coup tu changeais complètement ses caractéristiques, il apprenait des nouvelles compétences qu'il pouvait pas apprendre. Chaque Final Fantasy, si tu veux, apporte son système, et là celui-là c'est un système donc action RPG, donc on n'est plus du tout dans du tour par tour, et c'est vrai que bah c'est un jeu qui peut correspondre à la fois aux fans et aux nouveaux venus, mais ça peut aussi ne pas correspondre aux fans qui attendaient par exemple du tour par tour, tu vois. C'est une phrase qui pour moi veut tout dire et rien dire en fait.
Bah, si t'es pas réticent en tout cas au nouveau système de combat, ouais, ça peut plaire aux fans. Voilà, c'est vraiment ça l'aspect principal, je pense, qui peut décevoir.
Ouais. Ok, d'accord. Il est un petit peu temps de donner notre verdict. Ben, c'est trop tôt pour te demander ton verdict, ouais. Du coup, je vais demander à ATH. ATH, est-ce que au final, c'est un jeu que tu serais capable de conseiller à nos auditeurs ? Quel est ton avis au global maintenant que t'as bien poncé le jeu ?
Alors, est-ce que c'est un grand JRPG ? Non, clairement pas, parce que le scénario est foiré, en fait. Un JRPG sans bon scénario, ou bien sans un scénario qui veut t'emmener là où est-ce qu'il aurait envie, bah, je trouve ça assez dommage, quoi. Il y avait des trucs quand même assez intéressants, tu vois, dans le scénario que je pense qu'il devait être abordé. Des thématiques lourdes aussi, qui sont abordées dans le jeu, mais c'est tellement rushé que, bah, finalement, t'as pas le temps que ça t'applique émotionnellement, et ce genre de choses-là. Ne serait-ce que le grand méchant du jeu, il pourrait parler aux fans de Final Fantasy parce qu'il fait très penser à un Kafka, et en même temps il y a un peu cet aspect Joker. Mais le problème c'est que le personnage n'est pas du tout développé en fait dans le jeu. Et comme il y a plein de personnages comme ça qui sont très bâclés, des personnages vraiment importants, surtout quand tu vois Kinglave, qui sont vraiment mais balayés d'un revers de la main pendant le jeu, c'est dommage. Ça aurait pu être un très grand JRPG. Sauf que là, bah non. Et du coup, moi j'ai été très déçu. Mais après, est-ce que le jeu, je peux le conseiller ? Oui, clairement. Si vous voulez jouer pour tout ce qui est système de combat, la découverte du monde, oui, c'est un bon jeu en fait. C'est un bon jeu, mais c'est pas le Final Fantasy qui avait été promis à la base. Ouais. Quoi. Et du coup, peut-être que s'ils font le DLC avec les ajouts, tout ça, peut-être que ça va rattraper la chose et que ça va être finalement le Final Fantasy censé sortir. La bonne surprise concernant l'histoire, c'est la narration entre le groupe de personnages. J'ai apprécié ce côté-là du jeu. Et oui, finalement, le jeu, il se laisse faire, c'est plutôt sympa, mais grosse, mais vraiment grosse déception au niveau scénario, quoi. Tout ce qui est aspect technique, tout ça du jeu, les problèmes de caméra, tout ça, c'est très secondaire. C'est bon, c'est des défauts qu'il faut pas oublier de souligner, mais c'est pas pour moi les gros points noirs, quoi. Et le gros point noir, c'est vraiment ces trous du scénario. Voilà, des fois, ça fait même des incohérences. Enfin, j'ai vraiment été très déçu de ce côté-là.
Malheureusement, je pense qu'en fait, c'est un Final Fantasy de 2016 et que maintenant, les jeux, pour qu'ils soient entièrement finis, il faut attendre 6 mois ou un an après qu'il y ait les DLC, qu'il y ait tout ce genre de choses qui sortent et qui soient mis à jour pour que le jeu soit vraiment complet.
Ouais, mais
enfin, on n'est pas habitué à ça avec un Final Fantasy, malheureusement.
Ouais, mais tu vois, par exemple, The Witcher 3, quand il est sorti, il ne manquait pas du scénario, quoi.
Oui, mais Witcher 3, c'est un ovni presque par rapport aux autres. Ouais, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui sortent où il y a des incohérences, des trous et qui corrigent par la suite. C'est pas une bonne pratique, mais c'est malheureux.
Pour l'instant, j'ai pas vu de jeu où on a dit on va te rajouter des cinématiques pour te raconter l'histoire du jeu, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Et vraiment, ça, j'ai pas compris. Et je sais même pas comment ça a pu être validé par Square Enix. Ils se sont dit à quel moment, ouais, ça peut passer. C'est dommage, quoi. Je pense qu'ils auraient pu faire un très bon Final Fantasy, qui aurait pu réconcilier notamment ceux qui avaient pas aimé le 13. Mais là, en fait, comme a dit le tyran, en fait, c'est pour lui, il considère un petit peu ce Final Fantasy-là dans sa structure comme l'inverse de Final Fantasy XIII. C'est-à-dire Final Fantasy XIII, c'est des couloirs, et puis après, tu arrives sur le monde ouvert, et là, c'est vraiment l'inverse, en fait. Du coup, en fait, on peut faire le parallèle avec Versus XIII, parce que c'était un peu le schéma inverse. Là, tu commences, t'es dans un monde totalement ouvert, et puis à la fin, t'es vraiment dans des couloirs. Quand on dit des couloirs, c'est vraiment les couloirs dans votre appartement, quoi. Notamment chapitre 13, quoi. Vous verrez vraiment ce que ça veut dire, couloir. Et encore, moi, ça me dérange pas que ce soit un couloir, mais ce qui me dérange, c'est que ce soit pas intéressant, en fait. Et le chapitre 13, malheureusement, bah, c'est dégueulasse. Vraiment.
D'accord. Bon, bah, je pense qu'on a bien fait le tour de Final Fantasy XV. Il me reste plus qu'à vous remercier, bien sûr, pour vos avis éclairés sur la question. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés pour ce dernier podcast de la saison 2016. On se donne rendez-vous, bien évidemment, l'année prochaine avec le retour, le grand retour de notre grand Manitou, le tyran. Et puis, on vous souhaite, bien évidemment, de très bonnes fêtes. À l'année prochaine. Salut à tous.
Salut.
Et Square Enix, sortez-nous le DLC rapidement là. Ciao. Merry Christmas. I'm not a not so nice. Someone who wants you dead. No, when you're sleeping and I know when you wake. Got shot full of holes and I'm hiding under your bed. Got some cookies, got some milk. Got my shotgun trained on the chimney. You stole my woman and all I want for Christmas is to kick your ass. All I want for Christmas is to kick your ass. White bit blood satin suit, looking down on me from your sleigh. All I wanted was my blue-eyed babe, with a sack in his grin, he winked and they rode away. Got some cookies, got some milk, got my pit bull chained to the chimney. You stole my woman in.